France Culture.
À voix nue, Lisa Vignoli,
Sophie Fontanelle, j'écris.
Aujourd'hui, quatrième épisode, miroir, mon doux miroir. Sophie Fontanelle, hier, nous avons parlé de vos 12 années au sein du magazine Elle, de votre œil de critique de mode que vous avez emmené avec vous dans les pages du Nouvel Obs, au sein duquel vous tenez une chronique hebdomadaire. Entre ces deux ports d'attache, après avoir quitté l'un et rejoint l'autre, vous indiquez alors aux quelques 8000 personnes qui vous suivent sur Instagram à l'époque, à l'heure où nous nous parlons, elles sont plus de 360 000, que celles et ceux qui voudraient vous lire désormais, c'est le mot que vous utilisez sur un réseau social où alors personne n'écrit vraiment, qu'il faudra désormais le faire là. Nous sommes en 2015, tous les jours, vous vous mettez en scène devant votre miroir, dans les tenues que vous portez, vous partagez un peu de votre vie quotidienne, dans un esprit chose vue, en soignant la légende toujours. Lorsque vous avez été licenciée du magazine Elle, nous disiez-vous hier, vous aviez 53 ans et la nouvelle direction vous a expliqué que vous étiez trop vieille. Cette exposition soudaine est-elle une façon de conjurer cette idée-là ?
Bien évidemment. En fait, je crois que j'ai eu un instinct de survie tel qu'au lieu de me permettre d'être malheureuse, j'ai décidé d'éclore. Et je me suis collée sur Instagram un jour à faire un post. Mais Instagram n'était pas aussi puissant que ça l'est maintenant. Je suis allée sur Instagram, j'ai fait un post. J'ai dit, comme vous l'avez souligné, il faudra me suivre ici. Et puis la semaine d'après, j'ai montré la racine de mes cheveux. Parce que c'était... Comme un malheur n'arrive jamais seul, non seulement j'étais licenciée, mais en plus, il fallait que je retourne faire ma teinture. Donc j'ai dit, jusqu'ici tout va bien. J'avais dit que j'étais virée. Et j'ai dit, jusqu'ici tout va bien, en montrant la racine de mes cheveux. Et ce qui m'a fascinée sur ce qu'est ce réseau social, c'est que tout le monde a compris. Moi, à l'époque, il y avait 8000 personnes, mais elles ont compris, toutes, que j'étais en train de dire que j'allais arrêter de me teindre les cheveux. C'est-à-dire, pile au moment où on se dit « Ah ben, je ne vais plus jamais retrouver de travail si je n'ai pas l'air jeune », j'ai laissé mes cheveux blancs.
Cette métamorphose, vous l'avez racontée dans un récit publié en 2017 qui s'appelle « Une apparition ». Et effectivement, à ce moment-là, vous dites « Et enfin, à 53 ans, j'ai entrepris d'apparaître ».
Oui, parce qu'en fait, des gens me disaient « Quand tu auras les cheveux blancs, tu vas devenir invisible ». Ça voulait dire invisible aux yeux des hommes. Donc déjà, je n'aime pas beaucoup qu'on étalonne la valeur d'une femme, ou même tout simplement son existence, au regard masculin. Donc ça m'a énervée, ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait que je laisse ses cheveux blancs. Et puis ce qui est arrivé, c'est l'inverse de la disparition. C'est que les cheveux blancs, c'est quelque chose de nouveau et de clair qui apparaît sur votre tête. C'est quelque chose de lumineux, en fait, qui apporte de la lumière à votre visage. Que ça vous vieillisse par ailleurs, ça me paraît totalement anecdotique par rapport à la lumière que ça apporte.
Vous avez inventé d'ailleurs un mot, blonde, pour faire de la couleur blanche sur la tête quelque chose d'aussi désirable que le blond. Et de nombreuses femmes, comme vous le dites, s'identifient à vous, celles qui osent, celles qui aimeraient oser mais ne le font pas, et celles qui vous disent aussi que c'est pas forcément très gracieux. Votre image devient virale à ce moment-là. En fait, vous devenez une icône, on vous arrête dans la rue, on vous reconnaît encore plus qu'avant. Qu'est-ce que ça vous fait ?
Bah déjà, je suis beaucoup plus facile à identifier. Par exemple, quand je vais à ces fameux défilés de mode, qui sont une partie de ma vie, les gens m'écrivent, enfin, ils font des captures écran, parce que quand on regarde un défilé, tout d'un coup, on voit une tache blanche. C'est moi. Donc, ça a été cette façon d'être reconnue immédiatement. Aussi, quand vous dites... que c'était une façon de montrer que c'était désirable. Pour moi, il faudrait s'entendre ce que ça veut dire désirable. Moi, ça m'est complètement égal d'être désiré par des hommes ou pas. Déjà, être désiré par un, c'est déjà tellement difficile. Si on y arrive dans la vie, c'est fantastique. Il y a des gens qui vont le vivre avec énormément de personnes dans la vie, qui vont être désirables pour beaucoup de monde, d'autres pas beaucoup de monde. Des gens qui vont aimer être désirables, d'autres qui vont pas aimer. Moi, pour moi, la principale chose, c'était que je n'ai plus cette humiliation de cacher qui j'étais. Parce qu'en fait, en me teignant les cheveux, je cachais mon être. D'autoriser mon être à exister, ça a changé ma vie. Et ça a changé la vie d'autres gens. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui ose pour que tout d'un coup, ça donne de l'énergie à tout le monde. Ça a donné de l'énergie à des gens dans le monde entier. Les femmes ne m'ont pas attendu pour avoir les cheveux blancs, mais tout à coup, bon, il y avait quelqu'un de très moderne qui le faisait à leurs yeux. Donc ça autorisait le fait d'avoir les cheveux blancs.
Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur cette façon de vous poster devant votre miroir et de vous montrer. À cette époque-là où vous avez commencé, vous avez consacré une interview dans laquelle vous disiez « ces photos, ce sont des rôles ». Quand j'ai relu cette phrase, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à votre père qui était, vous nous le disiez, représentant de commerce. Mais vous ne nous avez pas dit en quoi il vendait notamment des panoplies de déguisements. Qu'est-ce qu'il dirait, selon vous, de ces costumes dans lesquels vous vous glissez?
C'est amusant comme question, parce que je n'ai jamais réfléchi à ça. Mon père vendait effectivement des panoplies. On pouvait se transformer en plein de choses. C'était très amusant parce que j'avais accès à ces jouets. Vous savez, quand on est enfant, les jouets, faut supplier pour qu'on aille les acheter à la boutique. Moi, les jouets, ils arrivaient, les ours en peluche, les panoplies de Zorro, tout ça, ça arrivait directement à la maison. Ça, c'était le confort que j'avais. Mais à part ça, le goût de... Je ne sais pas si mon rapport au miroir est un goût de se déguiser. Je crois que c'est pour ça que c'est intéressant cette question. C'est l'inverse. C'est le goût de devenir profondément qui je suis. Les déguisements, ça me fait peur. Ça ne me faisait pas peur quand j'étais enfant parce que, bon, je jouais avec. Mais dans la vie d'adulte, ça me fait peur. Je déteste le carnaval de Venise, toutes ces choses-là. Voilà, je déteste ça. J'aime pas les soirées déguisées. J'aime pas ça. C'est comme un amusement obligatoire. Je déteste ça. En revanche, me mettre devant mon miroir, m'habiller avec les moyens du bord, et aller regarder si j'y arrive, en fait. Voilà. Toute ma vie sur Instagram, c'est pas de me la raconter, même si je me la raconte. Mais c'est d'arriver à me la raconter. Et c'est quelque chose de très humble. Ça pourrait passer pour une personne qui est tellement contente d'elle que voilà, elle va dans son miroir. Mais il faut pas être bien malin pour déduire que quelqu'un qui va tous les jours devant son miroir pour se checker n'est pas forcément super content de lui. C'est quelqu'un qui se cherche. Voilà, c'est une quête. Et ça aussi, ça a rencontré beaucoup de gens. Parce qu'en fait, on le fait tous.
Et est-ce que vous avez l'impression que c'était une sorte de façon d'aller chercher une forme d'amour?
J'ai pas pensé que j'allais chercher une forme d'amour, mais j'ai trouvé une forme d'amour. Et même, d'une certaine manière, c'est ma relation aux autres aujourd'hui. Je comprends que c'est pas pour rien qu'elle se passe par un réseau social, c'est-à-dire avec un écran, et puis devant un miroir, c'est-à-dire un deuxième écran. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à être dans la promiscuité physique, donc j'ai trouvé toutes les parades possibles pour que ce soit comme un labyrinthe, en fait. Mais je me montre. Dans ce labyrinthe, je me montre.
Et vous venez de le dire, vous avez des difficultés à vous lier de manière physique, notamment quand on connaît ce que vous avez écrit aux hommes ou quand on l'a lu en interview de nombreuses fois. Vous êtes aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour quelqu'un qui se montre beaucoup, vous ne vous ouvrez pas si facilement aux amis, aux autres, à l'extérieur. Qu'est-ce que vous ne montrez pas, en fait? Qu'est-ce que cette intimité qu'on ne voit pas?
Pendant longtemps, même si j'avais écrit « L'envie », qui était un livre où je racontais très, très, très brièvement, en une phrase, hein, finalement un viol, mais en une phrase. Qu'est-ce qu'elle croyait qu'un homme qui a fait tout ce chemin, qui est venu du Mexique, allait s'en tenir là? J'ai vraiment juste dit ça. Ça a suffi pour que des gens comprennent ce que ça voulait dire. Mais avant ça, et même autour de ça, ça, c'était ma part secrète. C'est-à-dire que j'avais pas honte d'avoir été violée. J'avais pas honte de ça du tout. Mais je voulais pas embêter les gens avec ça. C'était plutôt ça. Maintenant, j'en ai parlé, c'est plus ça la question. Après, j'ai eu honte et j'ai caché le fait que je n'avais pas de vie sexuelle. Mais quand l'envie est sortie, il a eu un tel succès ce livre, il est traduit dans je ne sais combien de langues. On en parle tout le temps, il n'y a pas un mois où on ne parle pas de ce livre. Donc ce livre qui racontait quelqu'un qui dit « moi je fais pas l'amour, j'y arrive pas », a rencontré tout le monde. Ce cas particulier a rencontré tout le monde, ça a été la fin de ma solitude. Et ça fait que quand je suis devant le miroir, j'y suis aussi avec ça. Et les gens, bon, maintenant, il y a beaucoup de monde qui me suit, vous l'avez dit, donc ils connaissent pas tous mon histoire, mais il y en a quand même beaucoup qui la connaissent. Et puis, elle a été beaucoup racontée. Voilà, je suis allée chercher l'épiderme, je suis allée chercher le contact et peut-être même la libido de cette manière-là. Je suis même allée me montrer nue à des moments. Je suis allée me déshabiller. Enfin, j'ai tout donné, quoi, comme on dit. J'ai tout donné sur ce réseau social.
Et qu'est-ce que vous répondez quand il vous arrive, si ça vous arrive, d'être taxé justement d'une forme d'exhibitionnisme? Je parle d'exhibitionnisme, de se montrer beaucoup, hein, pas de se montrer nue. Ça vous est arrivé deux fois, je pense. Une fois sur Instagram et une fois dans un magazine.
Il faut une forme d'exhibitionnisme pour pouvoir se montrer nu. Mais après, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas utile? En fait, on s'en fiche, moi, de moi là-dedans. C'est très utile. Il y a qu'à voir le succès que ça a eu les fois où j'ai été nue, que ce soit dans un magazine ou que ce soit sur Instagram. Les gens viennent regarder et encouragent. Alors bien sûr, il faut de l'exhibitionnisme. On me dit souvent que c'est narcissique. Ça m'amuse beaucoup parce que je ne voyais pas dans les miroirs. C'est pour ça que c'est drôle aujourd'hui que je me mette devant des miroirs et que je me prenne en photo. Je ne m'y voyais pas. J'avais l'impression qu'il n'y avait personne. Mais les gens, quand ils me regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Parce que quand vous avez été comme ça violée, votre seule défense, hein, en tout cas une des défenses, c'est de se dire « mais j'étais pas là ». Comme une chanson d'Alain Souchon qui dit « j'étais pas là ». J'étais pas là et je suis pas là en fait. J'ai trouvé des moyens d'apparaître différents et ça m'a guéri.
Vous voulez dire qu'à certains moments de votre vie, vous êtes mise face à un miroir et vous ne voyez rien, en quelque sorte?
Je ne voyais absolument rien. Je voyais quelque chose d'un peu flou. Je me disais, c'est peut-être moi qui n'ai pas une bonne vue. Et surtout, je me disais, mais les gens qui me voient, ils doivent être embêtés parce qu'ils ne doivent rien voir. Mais en fait, je cachais tellement. Je cachais tellement ce que j'étais. Ce qui a fait la paix en moi, c'est quand des gens ont commencé à dire que j'étais belle sur les réseaux sociaux. Ça m'a aidée, je me suis dit, bon, bah, ils voient quelque chose. Et puis, au fait, les gens qui ont dit, t'es moche, je me suis dit, bon, bah, alors, ils voient quelque chose aussi. Ça me dérange pas du tout qu'on me dit, t'es moche, en fait. Ça me touche pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser l'image comme un réparateur, voilà.
C'est elle qui vous a guéri, vous diriez?
Ah, complètement. Beaucoup plus que les mots, beaucoup plus que les livres, la poésie, beaucoup plus que tout. Ce qui m'a guéri, c'est de me filmer, en fait, de me mettre devant une caméra et de laisser tourner et de regarder ce que je voyais. Et il y avait quelqu'un. Le photographe Peter Lindbergh, il dit que tout le monde devrait le faire. De mettre la caméra comme ça, quelque part, avec son téléphone, et de se mettre devant, comme pour un casting, et de pas bouger et de regarder. Et il dit, on se rendrait compte qu'on a peur de choses dont on ne devrait pas avoir peur.
Mais il faut le faire soi-même alors. Il faut que ce soit un regard bienveillant qui le fasse. Vous avez eu cette expérience avec la télé et ça ne vous a pas suffi vraisemblablement. Ce n'était pas cet objectif-là.
La télévision, ça m'a aidé, c'est sûr. Mais mon problème, il est tout autre. C'est que je ne peux pas laisser... Je n'ai pas confiance en l'autre. Donc je ne peux pas laisser l'autre me regarder. Et si l'autre me regarde, je n'ai pas confiance en ce qu'il va dire en fait. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a regardé, m'a dit quelque chose, m'a menti, m'a attiré dans une chambre, et ça s'est très mal terminé. Donc, j'étais jeune et je me suis dit, bon, voilà, maintenant, faut plus du tout croire. J'ai même réalisé, mais ça, c'était un jour comme ça, sur un post que j'écrivais, j'ai réalisé que si pendant toutes ces années, j'allais si vite à me trouver disgracieuse, c'est parce que c'était une défense. Si j'étais disgracieuse, donc on n'allait pas me regarder, donc on n'allait pas venir. Donc j'étais protégée. Il m'a fallu beaucoup de chemin pour me dire, ben non, en fait, on parle de narcissisme. C'est pas si narcissique que ça de se dire, ben t'es pas plus moche qu'une autre. Et t'es pas plus belle qu'une autre. Ça s'appelle l'équilibre.
Aujourd'hui, votre nom, Sophie Fontanelle, est devenu presque plus fort qu'une marque de presse française. Presque 10 ans après votre départ de Elle, vous avez opéré ce qu'on pourrait appeler un rebond. Et on sent chez vous, depuis qu'on se parle, depuis le début de la semaine, aucun air de vengeance ou d'amertume, jamais. ce ne sont pas des émotions qui vous traversent ?
Ce sont des émotions qui me traversent à mon corps défendant. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire une crise d'herpès, une insomnie, me casser la cheville, vraiment me briser à trois endroits différents en deux mois. Ça, c'est la réaction que j'ai, c'est mon agressivité. Voilà, elle se retourne contre moi. Alors, on dit toujours que c'est pas bien quand l'agressivité se retourne contre soi. Ben, moi, je préfère qu'elle se retourne contre moi plutôt que contre les autres. Et j'ai choisi d'avoir un rapport plutôt tendre au monde. Et quand quelque chose me déplaît, je sais me défendre. Hein. C'est-à-dire que je me protège, je fais un pas de côté, je me laisse pas manger. Mais je vais pas agresser l'autre. Et si je l'agresse, je vais m'en vouloir terriblement. J'ai pas envie que ce soit ça mon rapport au monde. Et puis on vit dans un univers, parce que moi je suis sur les réseaux sociaux, où j'ai réussi à créer une communauté assez aimante. Mais il y a quand même des peaux de vache. Et les gens adorent être des peaux de vache. Et en plus, quand on est une peau de vache, on a beaucoup de succès. Si moi, au lieu de faire les critiques de défilé comme je l'ai fait, j'avais la dent plus dure, et parfois, au fond de moi, elle est beaucoup plus dure, je suis pas du tout tout en mollesse, de temps en temps, j'ai envie de mordre. Si je le faisais, j'aurais beaucoup plus de succès, et j'aurais pas 370 000 ou je sais pas quoi, followers, j'en aurais 2 millions. Mais je veux pas. C'est vraiment notre grand luxe, là, c'est la tendresse.
Vous avez le sentiment que ça vous vient d'où ? Ça a toujours été votre cas ou c'est quelque chose qui a grandi en vous avec une forme de sagesse ?
Alors, je viens d'une famille qui n'était pas méchante. Personne n'était agressif dans la famille. Enfin, il y avait eu des moments agressifs, mais ils étaient entrés dans la légende, on les racontait. Et je les raconte à mes neveux aujourd'hui, voilà. Mais on était plutôt... On pardonnait. Parce qu'on adore pardonner, parce que c'est sympa quand on pardonne, on va voir les gens, on dit « mais tu sais, j'ai eu tort ». Enfin, moi, ces phrases que les gens n'arrivent pas à dire, « j'ai fait une bêtise, j'ai eu tort, je m'en veux ». Moi, j'adore faire ça, parce que ça veut pas dire que je me permets d'agresser les gens, mais je sais pas, peut-être aussi maintenant, je vieillis, donc j'arrive à un moment où je vais quand même pas empoisonner ma vie avec ça. Quand j'étais jeune, j'étais plus agressive. Mais... c'est du temps perdu. On parlait du temps. Moi, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour écrire et pas avec du fiel, quoi.
Vous disiez tout à l'heure que dans votre façon de vous exposer, vous avez rencontré énormément de femmes, de personnes qui se reconnaissaient, en fait, dans ce que vous faisiez, notamment quand vous avez commencé à montrer vos racines. On va en parler dans le prochain épisode demain de la littérature, ce territoire qui est là tout le temps dans votre vie. Mais je me disais, dans votre façon de trouver des sujets, de livres, c'est souvent comme ça que ça se passe. Vous emparez d'un sujet qui a l'air comme ça complètement anecdotique, voire invisible. Ne pas faire l'amour, les cheveux blancs, l'amour des rides. Et en fait, des milliers de mains se lèvent et disent « moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Comment vous expliquez cette façon, d'une certaine façon, de sentir une époque qui ne dit pas son nom ou de prévoir un phénomène invisible ? Est-ce que c'est ce lien permanent avec les gens qui vous nourrit ? Est-ce que vous êtes... hyper attentive, je dirais presque comme un animal au monde qui vous entoure.
Ben, en vous écoutant, je me dis qu'il y a une seule réponse à faire à ça, c'est que quand on fait pas l'amour, on a d'autres sens qui se développent. C'est comme quelqu'un qui serait aveugle et qui sentirait mieux les choses. Je n'ai pas cette interférence et ce poids de savoir comment c'est le rapport de séduction. Je l'ai pas, cette chose dans ma vie n'existe pas. Alors, je vois d'autres choses. Et par exemple, depuis très longtemps, je me dis, est-ce que les gens sont si contents de faire l'amour ? Pas parce que je voudrais qu'ils soient tous de mon club et qu'ils fassent pas l'amour, mais est-ce que les gens, est-ce qu'on nous raconte pas des conneries ? Est-ce que, sur les rides, les gens, en fait, est-ce qu'ils aiment pas ça, les rides, ou est-ce qu'ils aiment ça ? Pourquoi on est devant le visage de Louise Bourgeois, on se trouve absolument sublime ? Pourquoi on est tous d'accord que c'est beau ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on nous raconte l'inverse ? Ça vient de quelque chose en moi qui est silencieux et du coup qui a très grandes oreilles.
Est-ce que vous avez le sentiment que cette personne que vous nous montrez, qu'on découvre sur l'écran de nos téléphones, c'est vraiment vous?
Oui. C'est ça qui est dingue. C'est que c'est moi ignorant même que je suis capable de ça. C'est-à-dire que de temps en temps, je fais quelque chose, je vais quelque part, je vois quelqu'un dans la rue, je filme son dos, et je me mets à écrire que le dos des gens, c'est bouleversant. Et je vais développer, je vais expliquer pourquoi. Là, je suis vraiment, c'est vraiment une écriture qui est très profonde, quoi. C'est jamais une écriture de toute manière journalistique, hein, dans ces posts Instagram. Et en faisant ça, je me rends compte.
Vous diriez qu'elle est comment, pardon, cette écriture?
Ben c'est la même écriture que si j'ai écrivais un livre, en fait. Hein, c'est exactement ça. D'ailleurs, parfois, je me dis, mais je suis bête parce que je perds de la substance.
Ah oui.
Dans les posts Instagram, je ferais mieux de faire des livres.
Vous les soignez beaucoup?
Les posts Instagram, oui. Je les fais vite, mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas soignés. Ça vient de très profond. Je cherche toujours quelque chose pour rejoindre les autres, puisque c'est ma seule manière de toucher les gens. Donc je me dis comment je vais faire, et en exprimant ce qu'on voit quand on voit la nuque de quelqu'un, le dos de quelqu'un, et qu'il ne se retournera pas, qu'on regarde ça, enfin, en exprimant ça, je vais toucher chez les gens qui vont le lire quelque chose, puisqu'ils me disent « c'est exactement ça ». Ça me fait exactement la même chose. Hier, ça m'a fait la même chose. Avant-hier, ça m'a fait la même chose. Donc, c'est cette chose profonde de moi que je n'ose jamais, je n'aurais, dans la vraie vie, si je puis dire, je n'oserais jamais dire à quelqu'un à une terrasse de café, mais c'est magnifique, je regarde votre nuque, j'aurais tellement peur qu'un contact s'établisse, ça me terroriserait. Mais là, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de risque. Je le dis comme ça à une multitude de gens. Et tout d'un coup, les gens, ils disent, moi, c'est pareil. Et ce moi, c'est pareil, il me donne le droit d'exister, en fait. Je me dis, ah ben, je ne suis pas si folle de penser ça. Donc, effectivement, dans tout ce que je fais sur Instagram, je montre quelque chose de très profond de moi. Et aussi, parce que c'est aussi moi, je montre des choses très superficielles, mais je suis aussi ça. Je suis aussi quelqu'un qui s'amuse, j'aime bien faire l'andouille. Il y a des gens qui me disent, par exemple, tu sais, de temps en temps, il y a des photos que tu poses de toi, elles ne sont pas à ton avantage. Ça, c'est fait exprès, en fait. C'est donc aussi quelque chose de... Je veux montrer vraiment comme je suis. Parce que sinon, je vais me retrouver avec une image qui ne correspondra pas à la réalité. J'essaie de faire coïncider cette image à la réalité.
Mais vous dites, j'aurais tellement peur qu'un contact s'établisse. Pour autant, cette façon de s'exposer sur Instagram conduit à ce qu'un contact dans la vraie vie s'établisse. Que des gens vous arrêtent dans la rue, vous parlent comme si vous étiez une de leurs amies, vous demandent un avis sur quelque chose. Enfin, ils ont l'impression d'être des vôtres.
Eh oui, mais vous savez, on est toujours pris à son propre jeu. Donc j'ai fabriqué le miroir, l'écran d'Instagram, et puis aujourd'hui, la réalité de tout ça, avec les livres, parce qu'il y a Instagram, il y a aussi les livres qui ont un certain succès. La réalité, tout ça, c'est quand je marche dans la rue, ça n'existe pas une journée où ça n'arrive pas. Il y a soit quelqu'un qui me parle, ou qui brandit un pouce pour me dire qu'il m'aime bien, ou bien des femmes, elles touchent leurs cheveux pour dire, soit pour me montrer qu'elles ont les cheveux blancs, parce qu'il y en a quand même de plus en plus, soit pour dire, j'en suis pas encore là, j'y arrive pas, etc. Donc elles viennent s'excuser qu'elles n'ont pas encore les cheveux blancs. C'est très drôle, parce que j'ai jamais dit qu'il fallait que toutes les femmes aient les cheveux blancs. Après, il y a les gens qui veulent faire des photos. Et je mesure avec stupeur, et au début ça me faisait peur, puis après je me suis dit, ben non, tu es obligé d'accepter ça, au moins accepte ça. C'est que les gens, ils veulent faire des photos, donc ils se mettent contre moi, ils mettent leur front contre mon front, et puis parfois je les enlace pour faire la photo, et là je sens le cœur qui bat presque à jaillir de leur poitrine, et il y en a qui disent beaucoup, je vais pleurer, je sens que je vais pleurer, donc je me dis, mais qu'est-ce que je représente pour ces gens? Et c'est pour ça que j'ai pas à cœur de les snober. Il m'arrive, parce que je suis fatiguée, j'ai la migraine, j'ai un rendez-vous, une contrariété, d'envoyer un peu promener quelqu'un, mais c'est très rare. Mais ça peut m'arriver. Alors après, il m'en parle pendant des mois. Je vous ai croisé, vous étiez très froide, maintenant j'ai vu votre vrai visage. Parce qu'il y a un tel désir de contact. En fait, la notoriété que j'ai est très particulière, parce que je ne suis pas une star de cinéma, ça ne repose pas sur du vide, parce que j'écris, mais c'est tout à fait nouveau. En fait, c'est des gens qui suivent ma vie tous les jours sur les réseaux sociaux. Et les gens qui... Je sais qu'il y a des gens qui jugent ça mal, mais parmi mes propres amis, il y a des gens qui considèrent que... Enfin, je sais très bien ce qu'ils pensent, en fait. Que vraiment, je vaux mieux que ça. Non, je vaux pas mieux que ça. C'est eux qui n'ont pas compris ce que c'est qu'une forme de lien dans la vie.
Est-ce que vous trouvez là-dedans une forme de reconnaissance ?
Je la vois, cette reconnaissance, et ça m'amuse de plus en plus, parce que quand on prend de l'âge, on se souvient vraiment de plus en plus fortement de comment on était enfant. Et je rêvais tellement, quand j'étais debout sur cette table, d'être connue, d'être reconnue, mais connue. Eh ben voilà, je suis connue. Et quand je m'assois...
Je n'osais pas vous le dire.
Vous n'osiez pas me le dire, ben voilà.
Non.
Et quand je m'assois à un défilé de mode et que je suis à côté de Diane von Furstenberg et qu'elle me dit « Vous êtes la femme qui a écrit sur la femme en Grèce qui laisse ses rides ?» Et elle me dit « Mais je crois pas. » Et elle a cette phrase incroyable. J'arrive même pas à croire que cette phrase est vraie. Elle me dit « Je crois pas qu'un dieu a permis que je sois assise à côté de vous. » Je me dis « Mais c'est quoi ça ?» C'était le rêve de mon enfance qui se réalise. Le rêve de mon enfance, c'était pas d'être assise à côté de Diane von Furstenberg, mais oui, quand même. Voilà, c'est ce qu'apportent les réseaux sociaux si on sait en faire un art, en fait.
En parlant de reconnaissance, en 2024, vous avez été informé qu'on allait vous décorer de la Légion d'honneur. Et qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que ça vous touche, ce genre de reconnaissance un peu plus protocolaire, je dirais ?
Alors, quand j'ai eu le prix du premier roman, je suis pas allée le chercher. Enfin, d'abord, j'étais sûre que je l'aurais pas. Je suis allée me promener, j'ai raté le prix, voilà. Là, la Légion d'honneur, je m'étais dit, si jamais un jour, c'est vraiment un rêve, comme si un jour j'ai un Oscar, quoi. Si un jour j'ai la Légion d'honneur, de toute manière, je le refuserais.
Pour l'Oscar, vous savez déjà ce que vous allez porter.
J'ai déjà le discours, bien sûr. J'ai déjà. Non, mais on se fait tous qu'on va recevoir un Oscar. Là, la Légion d'honneur, ça a dû me traverser l'esprit qu'évidemment j'allais refuser. Et puis quand on m'a appelé pour me dire que on allait me proposer à la citation. Je me suis entendue roucouler comme un gros dindon et dire mais merveilleux, c'est extraordinaire, ça m'est donné par le ministère des Solidarités et de la Solidarité et des Familles pour mes valeurs de transmission. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Bon, maintenant, ça m'angoisse. Je m'étais toujours dit jamais je me marierai parce qu'il y aura du monde au mariage, ça va m'angoisser tous ces gens dans mon dos. Et ben là, de nouveau, ça m'angoisse qu'il va y avoir des gens qui vont être dans mon dos et devant moi parce qu'on va me donner, on va me remettre une Légion d'honneur. Donc je sais pas, même pas si je ferai la cérémonie, à dire vrai. Parce que ça me fait peur. Parce que tout d'un coup, je vais être le centre d'une attention concrète. Tremblement.
Merci beaucoup, Sophie Fontanelle.
Merci.
En attendant votre décoration, merci de nous avoir permis de passer un petit peu, beaucoup peut-être, de l'autre côté du miroir. Nous vous retrouvons demain pour un épisode entier consacré à ce que l'on trouve à tous les carrefours de votre vie, la littérature. C'était À Voix Nue, réalisation Marie Placé, prise de son Yvan Turc, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Lisa Vignoli, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France. Thank you.